Alors, on est au premier chapitre de Pirkei Avot. On est dans la Mishnah Gimel. Mishnah Gimel. Antignos Ishsochu, Kibel Mishimon Hatzadik. Antignos Ishsochu, l'homme de Socho. C'est quoi Socho? C'est une ville. Socho, c'est une grande ville en Eretz Israël. Ishsochu, l'homme de Socho. C'est-à-dire quoi l'homme de Socho? Le maire de la ville. C'est un malarave de la ville. Kibel Mishimon Hatzadik, il a reçu. Il a reçu quoi? Il a reçu la Torah. La Mesirat Torah. Donc le Gadol Hador, après Shimon Hatzadik, on avait dit Anche Knesset Agdola. Après le dernier, après Knesset Agdola, c'est Shimon Hatzadik. Et après Antu Knesset Ishsochu. Ça veut dire, on avait dit hier, Moshe, il a reçu la Torah à Sinaï, il l'a transmis à tous les élèves. Mais dans la Mishnah, on ne cite pas tous les élèves, on cite le Gadol Hador. Moshe Kibel Torah Messina, me sera le Yoshua. Yoshua était le Gadol Hador. Après les Skenim, Skenim aux prophètes, les prophètes qui sont cités, qu'on a cités dans la Tanakh, jusqu'à Anche Knesset Gdola, et on n'a pas cité leurs paroles de tous les Skenim Nevi'im parce que c'est cité dans la Tanakh. On avait déjà dit, la Tanakh a déjà rapporté ce qu'ils ont dit tous les prophètes, ça y est, on n'a pas besoin de répéter, ça tu lis dans le Tanakh. Et maintenant, Pirkei Avot commence, on
Adoré.
s'est terminé l'époque du Tanakh. Alors donc, on avait vu l'Anche Knesset HaGdola, et après on a vu Shimon HaTzadik. Maintenant, on arrive à la troisième Mishnah. Antignos Ishsochu Kibel, celui qui a reçu la Torah, lui était le Gadol Hador, et le chef du Sanhedrin. Shimon HaTzadik était le Kohen Gadol, et le chef du Sanhedrin. Et aussi les représentants politiques du peuple juif. Comme quand Alexandre le Grand il est venu, c'est avec Shimon HaTzadik qu'il avait affaire. Donc, il était multifonctionnel, ce Shimon HaTzadik, le plus grand chacham des Juifs, le Kohen Gadol, le Tzadik Hador, le chef politique. Et après, il arrive Antignos Ishsochu. Pourquoi il s'appelle Antignos? C'est un mot un peu spécial, ce n'est pas tellement un mot hébreu. Probablement, c'est un mot composé, anti-gnose, gnose, gnose anti-gnose. Il y a quelque chose qu'on appelle la gnose. On ne sait pas exactement qu'est-ce que c'est la gnose de l'époque. En tout cas, la gnose, c'est une espèce de réflexion de HaKadosh Baruch Hu, de le sens de l'homme, les réflexions philosophiques. Tous, ils étaient des gnostiques, mais il y a toutes sortes de gnosticisme. Et après, il y avait le gnosticisme chrétien, connu. Mais il y avait la gnose déjà de Platon, de Socrate, d'Aristote. Aristote était un contemporain de Shimon HaTzadik. Et Platon était un contemporain de Chorban du Beth Midrash, les 70 années. Et Socrate était, à l'époque d'Irmiya Navi, on dit qu'il y a Socrate, il a rencontré Irmiya Navi. Je ne sais pas si c'est vrai ou faux, je ne sais pas. En tout cas, il n'y a pas de doute que Socrate, Platon, Aristote, ils étaient influencés par les Nevi'im. Ça, c'est pas sûr. Ils ont beaucoup de Yesodot, ils ont pris Platon, il parle beaucoup de Gilgoul, Pythagore, il parle beaucoup de Gilgoul. C'est beaucoup de Yesodot, de Gilgoul, de Neshamot, etc. Parmi Staber, qu'ils ont trouvé ça tout seul, peut-être, oui, bon. En tout cas, il y avait quelque chose qu'on appelle la gnose. La gnose, c'est des réflexions au sujet du sens de la vie et du sens du monde. Et c'est bien de réfléchir. Mais ici, anti-gnose. Il était anti cette gnose. Maintenant, en quoi consistait cette gnose? Je ne sais pas.
Agnostique, c'est ne pas croire en Dieu déjà.
Oui, il y a le mot gnose, agnostique, agnosticisme. La gnose, il a beaucoup, beaucoup de sens. Ça veut dire parce que chacun, il mettait dans le gnose. Et on peut dire, tout est gnose. Toute réflexion, c'est une gnose. Mais ça dépend selon l'époque, selon les philosophes, selon les inclinaisons, un truc, on appelait ça une gnose. Maintenant, ce anti-gnose, il est contre une certaine gnose. Mais je ne sais pas laquelle, je ne suis pas connaisseur. Est-ce que c'est contre une certaine gnose depuis que Platon il a développé? Alors, il se peut, ça je m'aventure, je n'en sais rien, il se peut que le Mahamar qui est marqué dans la Mishnah, ça c'est la définition de son antignose. Qu'est-ce qu'il a dit? Antignose Issocho ki bel mishemenatzadik, hu haya omer, lui il disait, c'est-à-dire lui il a répété toute sa vie. Lui il a ancré ce proverbe dans la tête des gens. Qu'est-ce qu'il a dit? אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס. אלא הווה מכעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס. Soyez comme des serviteurs qui servent leur maître sans intention de recevoir une prasse, une récompense. Il ne faut pas servir Dieu pour la récompense. Donc il y a ici deux notions. Il y a deux notions de service de Dieu. Une notion, j'utilise le service de Dieu pour moi-même. Et un service de Dieu, pas pour moi, mais pour quelque chose, pour un but plus élevé que moi. Ce n'est pas le moi qui est important. C'est quelque chose d'autre. C'est quoi ce quelque chose d'autre? C'est l'amour d'Hachem ou l'amour de la vérité, l'amour de la justice, la vraie cause qui est au-dessus du besoin de l'homme. Que l'homme, il a un intérêt de servir la vérité. Et servir la vérité, il aime la vérité, il est amoureux de la vérité, il est amoureux de Dieu, et son propre intérêt ne joue pas un rôle. Ça, c'est la philosophie qu'Antignos, il défendait toute sa vie. Alors, il se peut, mais ça, c'est, je ne suis pas sûr, que la gnose contre laquelle il luttait pendant sa vie, et c'est pour ça qu'on l'appelait Antignos, c'est sûr que ce n'est pas quand il est né on l'appelait Antignos. C'est pas Mr. Bear, il avait un nom en juif sûrement. Mais il est rentré dans l'histoire au nom de Antignos, il luttait contre une certaine idée qu'il voyait s'installer dans le peuple juif de sa génération. Ça veut dire qu'il a vu qu'il y a une tendance dans les gens de sa génération de servir Dieu pour leur propre intérêt. Les mitzvot, on les fait, mais je pense à moi. Ce que la mitzvah peut m'apporter, elle peut m'apporter où? Dans ce monde, ou peut-être même dans l'autre monde. Elle peut m'apporter dans ce monde quoi? Bon, la religion peut apporter beaucoup de choses dans ce monde. Elle peut apporter de l'honneur, de l'estime des gens, ou peut-être la parnassa. On peut étudier, on peut enseigner pour la parnassa, un métier comme un autre métier. Peut-être dans sa génération, il a vu des rabbanim, des enseignants, que le ikar n'était pas la Torah. L'ikar, c'était, ils ont cherché un métier. On peut être menuisier, on peut être le cordonnier, on gagne la vie. Eh bien, on peut aussi être enseignant en Torah, on gagne la vie. Et si tu demandes à cet enseignant, est-ce que tu veux changer à être électricien, tu vas gagner plus. Eh bien, oui, eh ben, si tu veux gagner plus, j'échange. Parce que le but, c'est gagner. Alors là, ça, c'est pas très louable. Celui qui a le but, il est que pour gagner l'argent, et là où il gagne plus, il va courir derrière. Ça, c'est pas très louable. Si quelqu'un, il l'enseigne par vocation, et pour l'amour de la vérité, et il est aussi payé parce qu'on a besoin d'argent. On a besoin, et on peut pas vivre sans argent. Mais c'est nitfal, c'est un annexe. Ça, c'est autre chose. Mais lui, il a dit qu'il faut pas utiliser la religion pour soi-même. Mais c'est possible aussi, Sholom Atlakabel Pras, ni dans ce monde, ni dans l'autre monde. Même la récompense dans l'autre monde n'est pas un but, le top du but. Le top du but, c'est d'aimer Hachem. Mais on peut éventuellement, oui, penser au Lamaba, le Shem Shamaim. Pourquoi? Parce que je veux faire plaisir à Hachem. Mais comme Hachem, il a un plaisir de faire plaisir aux humains, alors je veux me faire plaisir à moi pour faire plaisir à Hachem. Mais sa mère est à ma com, mais sa mère est à briot. Après, on va dans Pirkei Avot, un sixième pérec. Ce qui fait Torah lishma, la Torah lishma, le Shem Torah, Ça, c'est le Shem pour l'amour de la Torah et l'amour d'Hachem. Mais Semeach et Amakom, il a comme but et il réussit de me Semeach réjouir Dieu. Ou me Semeach et Abriot, il va réjouir aussi les humains. Mais lui, ce qui fait Torah l'Ishma, aussi c'est un humain. Et il peut se réjouir lui-même aussi par l'amour d'Hachem. Parce que j'aime Hachem, donc je lui fais plaisir. Mais Dieu, il a un plaisir. Si les humains, ils ont un plaisir. Et le vrai plaisir des humains, il y a un plaisir dans ce monde, un plaisir dans l'autre monde. Donc je voudrais que les autres aussi, ils se réjouissent dans ce monde. Ils se réjouissent dans l'autre monde. Mais le but, il est pour réjouir Dieu. Mais moi aussi, je suis un humain. Dieu aussi m'a créé. Et Dieu aussi, il est intéressé de me réjouir. Alors, c'est vrai qu'un homme, il peut penser, je fais les mitzvot pour avoir Olam Haba, pour pouvoir me réjouir Olam Haba. Et le but de me réjouir, c'est parce que si je vais me réjouir, ça fait plaisir à Hachem. Et c'est ce plaisir que je cherche. Dans ces cas-là, de nouveau, c'est l'Hachem Shamaim. Ça, c'est aussi l'Ishma. Qui fait dans l'étude, le Rambam, il dit, la mitzvah de Ahavat Hashem, de aimer Hashem, c'est de qui fait en faisant une mitzvah. Comme ça, le Rambam, il traduit dans Sefer HaMitzvot. Étudier la Torah et qui fait l'étude. Et qui fait la mitzvah. Il y a dedans l'amour d'Hashem. De profiter de penser à Hachem. Quand le Rambam il développe, il me fait c'est tout, le penser à Hachem et se réjouir de voir la gloire d'Hachem, sa grandeur, sa justice, sa splendeur, sa vérité, jusqu'à ce que ça réjouit l'homme. Ça, c'est l'Ishma. Et ça, c'est le but pour lequel il faut, c'est ça qu'il faut chercher, c'est ça qu'il dit Antigonus. C'est possible que la gnose contre laquelle Antigonus il était anti, c'est justement des gens pour qui la réflexion divine, la réflexion du sens de la vie se dirigeait vers de rendre le besoin de l'homme dans le centre. Ça veut dire le hédonisme, toute la bassesse humaine qui est que l'homme, il est le centre du tout. Le but est l'homme. C'est très en vogue comme philosophie de nos jours. Les droits de l'homme, le besoin de l'homme, tous les agnostiques de nos jours, tous les, avec des gros mots, on aurait dit les Baal Ta'ava, tous les gens qui cherchent la Ta'ava, ils prennent le besoin ou ils prennent le plaisir. Ils prennent le plaisir, les réclamations de ce que l'homme y réclame pour lui comme but. Et si c'est ça la définition de cette gnose, alors elle peut avoir beaucoup de degrés. Ça peut être même dans la réflexion divine aussi, l'homme est le but. Et c'est justement contre cette gnose qu'Antigonus a lutté. Le but ne doit pas être l'homme. L'homme, il ne doit pas penser à lui. Kilo, il doit s'oublier, sauf, il n'est pas obligé de s'oublier dans le sens où il peut se réjouir parce que ça fait kavod à la shrina. On dit un homme, il se lave chaque jour. Il y a un mitzvah qu'un homme se lave le matin, le visage, mishum kvod kono, pour l'honneur d'Hachem, parce que l'homme il écrit Tzelem Elokim, et ce Tzelem Elokim doit être soigné. Il est la zaken, il partait au bain. Alors les élèves, ils ont demandé où vous partez. Il a dit, je pars pour m'occuper d'un pauvre. Qui c'est ce pauvre, hein? Eh bien, c'est mon corps. C'est un pauvre que je dois soigner. Si je ne le soigne pas, qui va le soigner? Imenanilimili. Je dois soigner ce pauvre corps. Et le but, il est, c'est parce que ce corps, il m'est utile pour faire les mitzvot. Mais le but, il est de faire plaisir à Hachem. Donc, ça c'est le slogan qu'il a répété pendant sa vie. Ne mette pas le but pour recevoir une récompense. Et la deuxième parabole, c'est quoi? Que la crainte du ciel, il sera sur vous. Craignez Dieu. Et ça aussi, quand il dirait que la gnose qui était contre laquelle il se levait, était justement pour dire, ne crains pas Dieu. Faut pas le craindre. Il n'est pas grave. Oh, il n'est pas méchant. Il croyait aussi, les philosophes grecs aussi, ils croyaient qu'il y a quelqu'un au ciel. Mais on n'a pas besoin d'avoir peur de lui. Il n'est pas terrible. C'est un copain. Tu peux le fréquenter. Comme il est ton copain. Eh ben ça, il luttait contre sa vie. Morashamaim alechem. Dieu et toi, c'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose. De quel yira il parle? Les Mefarshim disent, il y a deux sortes de craintes. Il y a une crainte, la première crainte, la crainte d'une punition, de peur qu'il va te punir. Ça, c'est le premier degré. Et après, il y a une autre crainte, la crainte devant le merveille, la crainte de Dieu devant sa puissance, devant sa vérité, et que l'homme, il est tout petit vis-à-vis de lui. Cette modestie, cette, peut-être pas modestie, mais cette reconnaissance de vérité que l'homme, il doit avoir, qu'il est tout petit, tout petit, ce que la Rambam m'explique dans le deuxième perek des Hilchot, Yesodé HaTorah, que l'homme qui voit la grandeur de Dieu, quand l'homme il est mitbonen, la grandeur de Dieu, travers la nature, et dans le Sefer Mitzvot, il dit, soit travers la nature, soit travers la Torah et les mitzvot, il réfléchit, il saisit la grandeur de Dieu, tout de suite il remarque que lui, il est tout petit, et tout éphémère, et obscur, biria, shefela, afela, une créature très très petite vis-à-vis de ce qui est le bourré au lame. Miad, il dit le Rambam, nofel alav. Yir a une crainte, un respect terrible devant le Créateur. Et ça, c'est le vrai Yirat Shamayim. Ou Miad, il dit, mit avait tout de suite l'homme, il désire une ta'ava gdola avec un désir de folie. Leïda est abouré de vouloir connaître le bourré au lame. Et ici commence la mitzvah de Ahavat Hashem. Et ça, c'est ce qu'Antignos, il donnait comme slogan pour sa génération. Alors, la Gemara nous raconte que ce Antignos, il avait deux élèves. Un, il s'appelait Monsieur Tzadok. Il avait beaucoup d'élèves, bien sûr. Mais deux qui étaient ratés. Parmi tous les élèves qui étaient bien, il y avait deux ratés. Un Tzadok, un Baitus. Et les paroles d'Antignos, ils l'ont interprété faux. Ils ont dit, le maître, il parle toujours de servir Dieu et de craindre Dieu, mais pas penser à la récompense. Probablement, le maître pensait qu'il n'y a pas de récompense. Et donc, ils ont développé une chita, il n'y a pas de récompense. L'homme, il est là pour faire les mitzvot. L'homme, il est là pour être le serviteur de Dieu, mais à la fin, Dieu ne récompense pas. Et cette idée, elle est archi-destructive. Alors, ils ont, entre guillemets, pété un plan. Ils ont nié la Torah. Donc, ils ont dit, il y a quelque chose d'injuste. Ça ne sert à rien de faire des mitzvot. On n'a pas récompensé. Ça ne nous intéresse plus. Ils ont dit, on ne veut plus la Torah. Et le Rambam, comme le Rambam dit, ils ont nié la Torah écrite et la Torah orale. Les deux, ils ont nié. Ils ont dit, on va se détacher de tout le judaïsme, mais on ne peut pas le faire d'un coup. On ne peut pas se rébeller d'un coup contre tout le système. Alors, ils ont dit, on va nier la Torah orale, on va garder la Torah écrite. Comme ça, doucement, comme tous les gens qui ont tracé Shalom, ils quittent la Torah, mais ils ne peuvent pas sortir de l'environnement dans lequel ils se trouvent. On commence doucement, doucement. Mais en vérité, les vrais chefs, Tzadok Obayit, aussi dit le Rambam, ton père, Jean Mishnayot, en vérité, ils ne croyaient ni à la Torah Shebichtav, ni à la Torah Shebalpé. Pourquoi Antigonos, il n'a pas fait attention de que les élèves ne se trompent pas? C'est parce que ça lui aime, parce que c'est Pashut, parce que chaque juif, il sait qu'il y a une récompense. C'est Pashut. Une seconde, je vais couper 30 secondes. Bon, vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Allô?
Oui, très bien, on vous entend.
Je m'entends, d'accord, Beseda. Alors, je continue. D'accord. Alors, pourquoi Antognis, il n'a pas exclu, il n'a pas précisé ses paroles? Parce que c'est pas chute. Parce qu'en vérité, il y a une grande question que le Rambam demande. Dans la Torah, on parle beaucoup de récompenses pour faire les mitzvot. Dans la Torah nous dit, si tu fais des mitzvot, Dieu te bénira, tu seras riche, tu seras en bonne santé, tu vas gagner les guerres, vous aurez la paix, et vous aurez l'abondance. Si vous faites, si vous faites les mitzvot, tu vous donneras la pluie. La Torah, elle est bourrée de nous raconter que l'application de la Torah apporte le bonheur, et spécialement dans ce monde. De l'autre côté, la Torah nous dit, si tu transgresses la Torah, il n'y aura pas de pluie, les ennemis vont venir, il y a des maladies, etc., etc. Donc, dans la Torah, on nous parle de récompense et de punition. Donc, c'est évident. Mais la Rambam, il demande, mais c'est quoi le but de la Torah? C'est la récompense dans ce monde? La religion, le but ne tourne pas dans ce monde, c'est dans l'autre monde. Alors, si c'est dans l'autre monde, pourquoi la Torah parle de ce monde? Ça, c'est le coucher de Rambam. Il y a beaucoup de réponses à cette question. Ce que le Rambam, il répond, c'est que la Torah ne parle pas de récompense. Elle parle des outils. Si tu fais les mitzvot avec tout ton cœur, Dieu va t'aider de pouvoir développer encore plus. Comment il t'aide? Il te donne la santé, qu'il te donne la parnassa, qu'il te donne la paix, parce que ce sont des outils que tu peux te développer beaucoup plus. Par contre, quand on est malade, quand on est pauvre et toute la journée on est obsédé de chercher un morceau de pain, on n'a pas la tête pour étudier, on n'a pas la tête de faire des mitzvot, on a la tête que de s'occuper que le corps il sera en bonne santé, il faut chercher du pain. Donc, dans la guerre, dans la famine, dans la maladie, on ne peut pas bien se développer Torah en mitzvot. Donc la Torah nous dit, si tu fais les mitzvot avec tout le cœur, je t'aide, que tu auras tout ce que tu as besoin. Et le contraire, si tu ne fais pas la mitzvot, je vous rends encore un peu plus difficile. Mais il s'agit simplement des outils qu'Hachem il donne. Mais la récompense, bien sûr, elle est dans l'autre monde. Ça, c'est ce que la Rambam il dit. Bon, la Rambam il pose une autre kushya. Est-ce que vraiment, si on fait les mitzvot, forcément, ça s'accomplit ce que la Torah a dit, tu seras riche, tu seras en bonne santé, tu auras la paix. On a peut-être déjà vu des gens qui, à nos yeux, ils font les mitzvot bien et ils ne sont pas bénis. Ou ils sont peut-être à ce shalom malade. Sur ça, la Rambam, il répond que les promesses de la Torah, ils sont faits pour le tzibour. Quand c'est tout le peuple juif, ou la majorité du peuple juif qui fait la Torah, là, les bénédictions de la Torah se réalisent. Mais si ce n'est pas la majorité, si ce n'est pas tout le peuple, il y a des individus qui sont tzadikim, sur ça, la Torah n'a pas forcément promis les bénédictions dans ce monde. Ils vont venir. Dans ce cas-là, dans l'autre monde, je suis sûr qu'ils vont venir. Ils peuvent venir aussi dans ce monde. Je vais en faire Ashgacha Pratit pour les tzadikim dans ce monde aussi. Mais il n'est pas obligé de le faire. Eux les priver à ce chambre de le faire. Parce que si c'est que la minorité, il peut avoir d'autres considérations qui ne correspondent pas au programme que la Torah nous dit, que dans ce monde il y a la richesse et la paix à tout prix. Alors en tout cas, c'est tellement pas chute de la Torah que ça existe la récompense, au moins dans ce monde, c'est marqué, la récompense ou la punition, le contraire aussi. En vérité, c'est marqué dans la Torah même, la récompense et la punition de l'autre monde, étant donné que la Torah nous raconte que si à certaines avirot, on est chayaf karet, venichata hanefesh haimeameha, son âme isra, est coupée. On ne parle pas de ce monde. Dans ce monde-là, tzadikim rechaim, comme il dit Kohelet, tous ils meurent à un moment. Il n'y a pas de différence entre la tzadik et la racha, à 60, 70 ans, 80, 90 ans, un peu plus, un peu moins, 100 ans, bon. Mais les badaïs, quand la Torah nous dit l'âme sera retranchée, il s'agit dans l'autre monde. Donc ce qui fait les mitzvot, son âme sera attachée. Donc évidemment, il y a l'olam haba. C'est tellement pas chout qu'en vérité, Antignus n'était pas obligé de le dire. Ça s'entendait tout seul. Le contraire, les gens, ils le faisaient que pour leur récompense. Donc lui est venu lutter contre ça. Mais tzadokobaitus, il ne voulait pas la Torah. Et quand un homme, il ne veut pas quelque chose et il cherche où s'accrocher dans les paroles d'un maître, il trouvera. Interpréter les paroles d'un maître faux, un homme qui a envie de quelque chose, il veut un soutien, il trouvera dans Chumash, il trouvera dans le Tanakh, il trouvera dans la Gemara, il trouvera dans la Halakha, il trouvera oralement un maître qui aurait dit un mot, et lui, il met son interprétation dedans pour dire ça y est, c'est ça qu'il voulait dire, c'est ça qui est juste. Et contre ça, on ne peut rien faire. Ça s'appelle. C'est la mauvaise foi. Contre la mauvaise foi, on ne peut rien faire. Chacun, il est maître de lui. La seule chose qu'on fait contre la mauvaise foi, c'est d'être clair dans ce qu'on enseigne. Ce n'est pas d'enseigner des choses équivoques. Alors, ça, il faut faire attention, qu'on verra après dans la Mishnah plus tard. Mais ici, ces paroles ne servaient pas Dieu. Ne servez pas Dieu pour la récompense, mais servez Dieu sans penser à la récompense. Ce ne sont pas des paroles équivoques. Ce sont des paroles que chacun de bon sens, il comprend que le maître, il met le but très haut. Il veut dépasser le stade que l'homme y pense à lui-même. Il veut que l'homme y s'attache à l'amour de Dieu, mais dépasse de penser à toi. Mais si tu veux penser à toi, c'est le premier stade du judaïsme. Tu le pourras aussi faire. Ce n'est pas un péché. En tout cas, c'est vrai, si tu fais les mitzvot pour la récompense, tu auras la récompense. Et bien, d'ailleurs, tu auras la récompense. Alors, maintenant, chez nous, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut servir Hachem en pensant à la récompense ou pas en pensant à la récompense? Alors, la vérité, il faut jouer avec les deux. Il faut avoir Il faut avoir dans l'idée les Shem Shamaïm. Mais comme ce qu'on fait les Shem Shamaïm souvent, il est faible, elle ne motive pas assez. Donc pour se motiver, on a le droit, on a le devoir pour se motiver un peu selon les Shem Shamaïm. Et si je sais que je n'ai pas de la force pour me lever le matin pour aller à la tfila, mais je resterai au lit et je ne ferai pas la tfila. Mais si je vais à la tfila, les gens vont dire, ah, il se lève le matin, il vient même au net, il est là tous les jours. J'aurai un peu de kavod. Avec ce kavod, je peux lutter contre le yetzerara de la paresse. Alors, on joue avec un soi-disant yetzerara contre un yetzerara qui est plus grand. Il y a un yetzerara de paresse qui veut que tu restes au lit, que tu n'étudies pas, que tu ne viens pas à la tfila, que tu ne donnes pas de tzedaka, que tu ne fais pas les mitzvot. Et lutter contre ce yetzerara, on peut soit avec des idées très émettes, le Shem Shamaïm, mais si ces idées ne te stimulent pas assez, Hachem il a dit, lutte contre l'Yetzara de la paresse avec un autre Yetzara, l'Yetzara de recherche du Kavod. On va te mechabed otra. Si tu donnes staka, on va te considérer comme quelqu'un de bien. Ah oui, ça m'intéresse. Alors je donne staka. Donc tu fais un bon geste. Et on utilise le Kavod pour la stimulation. Ah non, c'est pas joli. Je vais penser à la Kavod. Alors qu'est-ce que tu fais? Ne pense pas à Kavod. Et tu fais quoi? Tu donnes la tzedaka le Shem Shamaïm? Tant mieux. Ah non, le Shem Shamaïm n'est pas assez fort pour moi. Je ne donnerai pas de tzedaka. Ah, tu ne donneras pas de tzedaka parce que tu es avare. Mais si le fait que tu es avare, il prend le dessus sur toi, vas-y, utilise ton Yetzara du Kavod pour combattre le Yetzara de avare. C'est ça que Chachamim raconte. Ve'avta et Hashem Elokecha b'chol levavcha. ובכל נפשך ובכל מאודך. Tu aimes Hashem בכל לבובך, avec tout ton cœur. ובכל נפשך, avec tout ton âme. Ça veut dire quoi? Avec le Yetzer HaTov et avec le Yetzer HaRa. Il faut servir Hashem בכל לבובך, deux bêtes. Deux lèvres, לבובך, lèvres tov et lèvres ra. Serre Hashem avec le Yetzer HaTov. Et sert Hachem avec le Yetzarara. Comment peut-on servir Dieu avec le Yetzarara? Yetzarara, ça veut dire quoi? Yetzarara ne veut pas dire la recherche du péché. Chas v'shalom. Ce n'est pas le péché, le Yetzarara. On n'a pas le droit de servir Dieu en cherchant le péché. Yetzarara, ra et tov, c'est l'égoïsme qu'on appelle Yetzarara. Parce que dans la majorité, il amène à du mal. Yetzera Tov, c'est soit l'altruisme, soit l'amour de Dieu. Ça, c'est le Yetzera Tov, parce que normalement, eux, ils amènent à la bonne chose. Maintenant, quand on dit, tu dois servir Hachem, ben avec Yetzera Tov, ben avec Yetzera Ra, ça veut dire, je dois réveiller mon corps, ma pensée pour servir Hachem, soit avec le Yetzera Tov, ce Yetzer qui pousse l'homme d'aimer Hachem ou par l'altruisme, je veux faire une mitzvah, soit avec le Yetzer Hara, j'ai le droit de réveiller mon Yetzer Hara, pas Yetzer Hara de faire un péché. Le Yetzer Hara veut dire l'amour propre. Le Yetzer que je m'aime, j'ai le droit d'utiliser mon amour propre afin de servir Hachem. J'arrive pas à faire la mitzvah, je suis trop paresseux. Je dois préparer un cours, je dois enseigner aux enfants. Mais pour enseigner, il faut que je prépare. Et bien, il faut que je fasse un bon cours. Il faut que les élèves profitent bien. Mais pour préparer un bon cours, il faut que je m'élève et que je travaille et que je fais des recherches. Et tout ça, c'est fatigant. Mais une fois que je fais un bon cours, je kiffe. Je kiffe d'avoir fait un bon cours. Et aussi que les élèves, ils vont dire, t'es bien le cours. Ça me fait plaisir. Ce plaisir, ah, c'est un peu d'égoïsme. Mais grâce à ce plaisir, grâce à cette appréciation, eh bien, je suis stimulé de préparer le cours. Je suis stimulé de faire le cours. Ou n'importe quelle mitzvah, toutes les mitzvot que nous faisons, il y a toujours, pas toujours, mais dans la majorité des cas, il y a une partie de plaisir personnel, profit personnel. Mais tu dois l'utiliser si tu as besoin pour faire les mitzvot. Comme dit le Rambam, aux enfants, tu dis à un enfant, fais une mitzvah, et tu dis, il ne veut pas. Tu dis, je te donne un bonbon. Ah oui, pour un bonbon, il fait. Quand il sera plus grand, il ne faut pas un bonbon. Il faut déjà acheter une trottinette. Si tu connais Masechet Bava Metzia, je t'achète une trottinette. Ah oui, alors là, il étudie. Il dit le Rambam, on a le droit de le faire. Parce que l'enfant n'est pas encore dans la madriga de faire tout par l'amour d'Hachem. Donc, tu réveilles chez lui le Yetzera dans le sens de son profit, qu'on appelle ton propre profit Yetzera. Tu sers Hachem avec ton Yetzera afin que tu puisses lutter contre un Yetzera plus grand. Ou par exemple, la boucha. Un homme ne veut pas avoir honte. Hachem, il a créé la honte. Je me gêne de faire ça. C'est un garde-fou. Si l'homme n'avait pas eu honte, il aurait, je sais pas, il aurait pu marcher sans habit dans la rue. Mais Hachem, il a créé la honte. Je ne peux pas faire ça. Adam Harishon dit, je n'ai pas d'habit. Je me sens, j'ai honteux. J'ai mon kavod. Il a besoin. Les habits s'appellent le kavod de l'homme. Alors, un homme qui dit, ah non, je ne veux pas servir Dieu pour mon honneur. Boucha, la honte. Je m'en fous de la honte. Tu t'en fous de la honte? Oulala. Si tu en fous de la honte, il est capable de faire les pires des péchés. On dit que Paul Miche en lo be mikra, velom be mishna, velom et talmud, velom derech eretz, il est pas sous les idout. Un homme qui s'intéresse ni à la Torah écrite, ni à la Torah orale, veinu be derech eretz, et il n'a pas le savoir vivre. Il n'a pas de savoir vivre. Il y a plusieurs pshatim là-bas. Il ne travaille pas. Pas travailler, pas savoir apprécier la valeur de l'argent, comment c'est difficile de gagner l'argent net. Alors, il est capable de mentir. Mais la Gemara développe plus cette idée. Elle dit, un homme qui marche dans la rue sans habit, il n'est pas sous les doutes parce qu'il n'a pas d'honneur de lui-même. S'il n'a pas de l'honneur de lui-même, il est capable demain de devenir un faux témoin. Parce que le faux témoin, on peut gagner beaucoup d'argent d'être un faux témoin. C'est un super métier. Être un faux témoin, raconter des bobards sur des gens, on est bien payé pour ça. C'est un bon métier. Alors, il faut lutter contre ça, soit par Yirat Shamayim, soit par, comme dit la Gemara Shavuot, c'est une honte d'être un faux témoin. C'est honteux. Les gens, ils vont te mépriser. On dit aux témoins, les gens, ils vont vous, si vous montez, vous sachez que les gens, ils vont vous mépriser. Vous êtes les derniers des derniers. Les gens, ils vont vous prendre pour des, alors non, ah, ça, je ne veux pas. Je respecte mon honneur. Voilà. Tu respectes ton honneur, grâce à ça, tu ne vas pas tomber dans le pire des péchés d'être un menteur, un faux témoin. Donc, on a le droit d'utiliser le Yetzarara pour servir Hachem. Ce sont des moyens stratégiques de combattre le Yetzarara. Mais le but du but, c'est l'amour d'Hachem. C'est l'amour de la vérité et la vraie crainte d'Hachem devant Dieu qui est mille millions, milliards plus, fois plus fort et plus intelligent et plus éternel et c'est magnifique. Et toi, tu es tout petit, servir de pouvoir faire plaisir à lui, ça c'est le top du top et c'est ça qu'Antigone aussi l'a dit, il faut rechercher ça, c'est ça qu'il faut chercher. Yossi ben Yoezer, alors on continue. Yossi ben Yoezer Ishtzerida, Yossi ben Yochanan Ish Yerushalayim Kiblou Mehem. Donc les deux Gdolé Hador, Yossi ben Yoezer Ish Tzereida. Tzereida aussi c'est une ville qui s'appelle Tzereida. Donc il est né, où il a œuvré, il était le rav de la ville Tzereida. Yossi ben Yochanan, Ish Yerushalayim, Kiblo Mehem. Donc, eux, ils étaient le chef du Sanhedrin. Alors, ici, il y en a deux. Avant, il y avait un, Shimon HaTzadik, Antignus Ishsohu. C'était un Gadolador, un Gadolador. Maintenant, d'un coup, il y en a deux. Alors, moi, on nous raconte que les Chachamim, ils ont instauré, à partir de cette génération, qu'il y en a deux chefs. Le premier, c'est le Nassi du Sanhedrin. Et le deuxième, c'est le Av Bedin. Yossi ben Yezor de Nassi, Yossi ben Yochanan de Av Bedin. Quelle est la différence? Le Nassi joue aussi un rôle politique. Il faisait la politique du peuple juif. Et pourquoi la politique? Et avant, qui faisait la politique? Avant, c'était Antignus Ishsohu. Alors, c'était le plus grand Chacham était aussi le chef politique. Et ici, c'était deux. Pourquoi? Parce qu'il fallait appuyer un petit peu. Parce que ça, c'est bon, dans Flavius, on parle d'Arichut Yosef HaChoker. Il y avait un gangster qui était un neveu de Shimon HaTzadik. Shimon HaTzadik, l'héritage de la Kohuna Gdola, elle ne se passait pas bien, malheureusement. Shimon HaTzadik, il avait deux enfants. Il y avait un chaos dans la nomination du Kohen Gadol. Et après, il y a un neveu qui est venu. Et lui, il a travaillé avec le roi d'Égypte, Ptolémée, et avec les Syriens. Ils sont venus il y avait une grande influence à l'époque, les Goïms sont venus. Et lui, il a dit que je vais ramasser des impôts chez les Juifs. Et il a fait un coup. Il a trompé le peuple juif. C'est toute une histoire. Et c'est un type qui n'était pas bien religieux. Et à ce moment-là, mais il avait le pouvoir, il avait la grâce du roi de Ptolémée d'Égypte. Alors donc, les Chachamim, ils ont instauré un État dans l'État. On va gérer la politique indépendante de ce gangster. C'est ce gangster qui continuait, puisqu'ils ont amené tous les Grecs, jusqu'à ce qui est arrivé après l'histoire de Hashmonaïm. Et les Chachamim, ils ont fait un État dans l'État. Le chef du Sanhedrin, il est Nassi, il gère la politique, il prend les décisions politiques pour le peuple. Pour la grande majorité était attachée au Chachamim. Les autres, ils ont fait une politique pour les riches ou pour ceux qui étaient proches des Goïm. Yossi ben Yezer était de Nassi et l'autre était la Av Bedin. Av Bedin, il se concentrait plus pour gérer le Bedin lui-même, les affaires directement qui concerne le Bedin et la Torah et la transmission de la Torah. Et Yossi ben Yezer, il était au-dessus de ça, encore avec un rôle politique. Donc, Yossi ben Yezer, Ishtiridav, Yossi ben Yochanan, Ishirushalayim. Eux, d'ailleurs, ils ont déjà rentré. Ici, on est déjà en pleine histoire de l'assimilation avec les Grecs. Yossi ben Yezer, il est mort par son propre neveu qui était le chef des Juifs Mityavnim. C'était pendant l'exérote, quand les Grecs ils ont fait l'exérote, que chacun qui étudie la Torah, qui enseigne, etc., ils étaient la guerre contre la religion. Et Yossi ben Yezer, il a payé avec sa vie pour ça. Mais bon, ça, c'est quand il était vieux. Mais quand il était jeune, c'était encore avant. L'histoire des Grecs, l'exérote, ça durait 52 ans. Alors, Yossi ben Yezer, Ishtirida, Yossi ben Yochanan, Ishirushalayim, Kiblumehem. Eux, ils étaient donc les deux Gdoléadors qui ont géré le peuple juif et les Sanhedrin, qui ont transmis la Torah, ils ont reçu Antignus Ishsohu. Et chez Yossi ben Yezer, ça a commencé la première machloket qui n'était pas décidée au Sanhedrin. Depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à Yossi ben Yezer, toutes les décisions étaient décidées, en doute, deux avis chez les Rabbanim étaient décidés par la majorité. La première Machloket qui n'était pas décidé, c'était à leur époque. Et pourquoi ce n'était pas décidé? Canirait que c'était difficile à réunir tous les Chachamim. Ça a commencé l'histoire des Grecs, ils ont persécuté, et les Chachamim devaient se cacher. Un, il s'est caché en Eretz Israël, l'autre, il s'est caché peut-être ailleurs, dans différents endroits. Et quand une question à la règle se demandait, on ne pouvait pas toujours savoir qu'est-ce qu'elle pense la majorité des sages. Donc, on a laissé les choses telles qu'elles. C'est pour ça, dans la Mishnah no Chagiga, on nous dit Yossi ben Yezer omer lismoch, Yossi ben Yochanan Ishrosham omer lo lismoch. La première machloket était Smicha Yom Tov. Est-ce que quand on apporte un korban au Bet Mikdash Yom Tov, Normalement, un korban, il faut appuyer la main dessus. Est-ce que Yom Tov, on a le droit d'appuyer la main? Parce qu'il y avait une vieille xéra de Chachamim de ne pas s'appuyer sur un animal. On n'a pas le droit de monter sur un arbre. On n'a pas le droit de chevaucher sur un animal. De peur que quand on voyait sur l'animal, on voudrait faire avancer l'animal. Et on risque d'arracher une petite branche d'un arbre pour faire de ça un petit fouet. Et à cause de ça, ils ont interdit de ne pas chevaucher. Et donc, cette xéra, c'est une vieille xéra. Maintenant, la question, elle est au Bet Hamikdash. Pour la mitzvah de Smicha, mettre la main dessus, donc il est Mishtamesh Bebalechaim, est-ce que c'est permis en tout? Il ne faut pas se soucier à Machloket et les Chachamim n'étaient pas capables de trancher. Et c'était, il n'y avait pas de majorité qui disait comme ça, on ne savait pas cette halakha. Et c'était difficile à réunir tous les Chachamim. Alors, Yossi ben Yezer Istreda, la Gemara appelle, c'est le dernier Ish HaEshkolot. L'homme Eshkolot, Ish Shehakolvo, il avait tout, toute la Torah, toute la Tzidkut, toute la Kedusha, toute la Chochma, tout était englobé dans cet homme. C'est le dernier des Ish Eshkolot. Depuis Moshe Rabbeinu, tous les Shoftim, tous les Chachamim, les grands, ils étaient toujours des Ish Eshkolot, ils avaient toujours tout. À lui, c'est le dernier. Après lui, ça manque déjà. Alors, Kibloumehem, Yossi ben Yoezer Ishtirida Omer. Donc, quel était le proverbe que lui, il a martelé pendant toute sa vie? Yei Beitra Betvaad l'Chachamim. Que ta maison sera toujours une maison de réunion pour les Chachamim. Pourquoi lui, il a martelé ça? C'est parce que dans sa génération, les Chachamim, on a commencé à les persécuter, à les chasser. Ils étaient obligés de se cacher. Alors, Yossi ben Yoezer, il est dit que ta maison sera une maison de réunion pour les Chachamim. Les Chachamim qui veulent se réunir. Où ils vont se réunir? Dans des grottes. Dans les livres de Chachmonim, on me raconte qu'ils se cachaient dans les grottes. Les Chachamim étaient obligés de se cacher dans les grottes. Chaque juif religieux, il avait la vie dure, mais à plus forte raison. Les Chachamim, les Grecs, ils ont compris. Et le moteur de religion derrière le simple du peuple, ce sont les sages qui sont derrière. Alors, eux, ils étaient plus persécutés. Donc, il a dit, faites ta maison une maison de réunion pour la Chachamim. La Chachamim veut se réunir. Vas-y, donne-leur une chance. Fais-les rentrer chez toi. Comme ça, tu vas faire que les Chachamim sont réunis. Ils peuvent beaucoup mieux travailler. Quand les Chachamim travaillent ensemble, c'est plus puissant que ça qu'ils travaillent tout seuls. Et va te poussiérer avec la poussière de leurs pieds. C'est une façon à la lettre et c'est une façon imaginée. Les Chachamim, ils étaient assis sur des chaises et les élèves, ils étaient assis par terre. Comme ça, c'était autrefois l'enseignement. Alors, quand tu es assis par terre et le Chacham, il est sur la chaise, il a les pieds devant. Et ces pieds-là, ils lèvent un peu de poussière. Alors, si tu n'aimes pas la poussière, tu vas derrière. Et si tu veux écouter mieux, tu seras devant. Donc, littéralement, vas-y, mets-toi dans la première ligne. Ça veut dire, prête bien à l'oreille ce que la Chacham dit. Et invite les Chachami chez toi et assieds-toi devant lui. Et dans la première ligne, mais dans la première ligne, je vais recevoir la poussière. Eh ben, c'est pas grave. Tu vas recevoir la poussière, mais tu entendras mieux. Écouter un chiour mieux est mieux que d'écouter un chiour pas tellement bien. Il y a une mitzvah d'écouter le chiour, mais de l'écouter dans des bonnes conditions. Alors, baisse-toi, même que c'est soit humble afin de bien écouter et bois avec soif leurs paroles. Boire leurs paroles et boire avec soif. Tout le monde il sait que quand on a soif et on boit, alors c'est un kiff. Mais quand on n'a pas soif, ça ne veut rien dire. Et quand on a soif, le simple eau, c'est un kiff. Quand on n'a pas soif, il faut du Schweppes, il faut avec des bulles. Quand on n'a pas très soif, on fait attention à toutes sortes. En vérité, dans la Torah, il y a la base, le simple eau. la base de la Torah. Après, il y a des choses spéciaux, il y a des effets spéciaux, il y a toutes sortes de choses, des bulles et du goût spéciaux. Mais quand on a soif, le simple eau, réviser une Mishnah, connaître la Mishnah, encore une fois, répéter, connaître la Mishnah, connaître la Gemara, des fois c'est un travail ardu. Mais quand on a soif, eh bien, ça fait un plaisir. Alors ça, c'est le Yesod. Boire leurs paroles avec soif. Ça veut dire vraiment kiffer, kiffer les paroles. Et ça, c'est le message que Yossi Ben Yoézer disait aux gens de sa génération. Parce que le Limud HaTorah était affaibli grâce à la... ça commençait l'assimilation vers les Grecs et les Juifs qui étaient malheureusement déjà atteints par le virus de la Grèce. Ils ont travaillé pour affaiblir Yossi Ben Yochanan. Alors, donc ça, c'est le Av Beit Din. Yossi Ben Yochanan, Ish Yerushalayim. Alors, lui, c'est l'homme de Yerushalayim, c'est-à-dire le Av de Yerushalayim. Et Yossi Ben Yezer, on le dit Ish Tzreida, c'est le Av de Tzreida. Donc, Yossi Ben Yezer n'habitait pas à Yerushalayim. Il n'habitait pas, il habitait ailleurs. Pourquoi? Parce que là-bas aussi, il y avait des élèves où il ne pouvait pas être à Yerushalayim. On ne le laissait pas. Mais ils étaient au Sanhedrin. Ça veut dire, de temps en temps, ils se sont réunis au Sanhedrin. Mais Bekviot, il habitait dans la ville de Tzreda. Yossi Ben Yochanan, Ish Yerushalayim, Omer, Yi Beitra, Patuach la Ravacha, que ta maison sera ouverte largement. C'est-à-dire quoi, la maison sera ouverte largement pour les pauvres, pour les riches. Et quoi, les riches, ils vont venir faire business chez toi. Ce n'est pas ça que le Tanne veut nous dire. Le Tanne veut dire ouvre ta maison pour les pauvres. Il faut inviter les pauvres, il faut donner aux pauvres. Ça, c'est une mitzvah qui est marquée dans la Torah. On n'a pas besoin de Tanne pour me le dire. Quel est le chiddush? Donner tzedaka, un chiddush. C'est-à-dire que dans sa génération, il y avait quelque chose de spécial. Tous les sortes de Pirkei Avot, il est toujours, comme je disais déjà hier, que chaque Mahamar, que chaque Tané, il a dit, Hu Haya Omer, lui, il disait, ça veut dire, il le disait inlassablement pour les gens de sa génération qui avaient besoin d'entendre cet enseignement tout spécialement. Alors, il a dit, il faut ouvrir la maison grandement pour laisser rentrer les pauvres. Parce que les pauvres à son époque, plus qu'on était religieux, plus ils sont devenus pauvres. Et marqué dans Sefer HaShmonaim, ils obligeaient les gens, dans la Gemara aussi, le Midrashim, ils obligeaient les gens religieux, on leur enlevait la parnassa. Quelqu'un qui avait des taureaux, on disait, tu écris sur la corne, Enli Chelek Beloke Israël. Je ne crois plus en Dieu du Juif. Alors, le juif religieux, il a dit, moi, je ne peux pas écrire ça. Tu ne peux pas écrire? Alors, on enlève ton taureau. Ça, il a perdu le taureau. Chaque jour qu'ils ont trouvé un moyen pour priver le juif religieux de sa parnassa. Donc, ils se sont tout le temps appauvris, appauvris. Donc, lui, il a dit, ouvre ta maison, si toi, tu es encore riche, on ne t'a pas encore enlevé ton argent, tu as encore la possibilité. Ouvre ta maison pour les pauvres, parce qu'aujourd'hui, les pauvres, c'est une question de continuation. Il y a beaucoup de pauvres et des gens bien, des pauvres qui sont bien. Viu anim b'nei betra, et prends des pauvres pour b'nei betra, comme ta femme. Ça veut dire engage, tu as besoin. À la maison, femme de ménage, prends pas une femme de ménage de l'autre, une autre culture. Prends un pauvre, donne aux pauvres de la parnassa. Va'al tarbe sikhaim ha'isha, et ne parle pas trop avec la femme. Alors, quand il est qu'ici, il y avait une influence qui venait, quand on commençait à parler, je ne sais pas, est-ce que c'est du féminisme de l'époque, ça commençait en culture, on parle avec la femme, et à la fin, on ne va pas au Beit HaMidrash. On parle. Alors, il faut parler avec la femme. Ce qu'on n'a pas besoin. Mais c'est pour perdre le temps. Alors, perdre le temps, ça, c'est pas bon. Même avec sa propre femme, on parle ce qu'elle a besoin, ce que tu as besoin, ce que les enfants ont besoin. Ce qu'on a besoin, c'est une chose. Ce qu'on n'a pas besoin, c'est bitul Torah. Tu fais raison avec les femmes du copain, ça c'est encore plus dangereux. Ça c'est une des choses qu'aujourd'hui, on doit aussi répéter. Si aujourd'hui, Yossi ben Yohanan avait été aujourd'hui, il aurait aussi insisté sur ça. Et c'est Traviro, pendant on est au boulot, ce qu'on est obligé de dire, on dit, mais un mot de trop, il ne faut pas dire. Ou des familiarités, ou appeler un échétiche à son prénom, Khutzpa. Tu es patron ou tu travailles dans une usine, il y a là-bas une femme mariée, ou pas mariée aussi, on ne dit pas Léa, Rachel, Myriam, ça ne se dit pas. Khutzpa, c'est un azout panim. On dit Madame Cohen, Madame Levy, Madame Dupont. Il faut garder une distance. Mais ce n'est pas que le nom, c'est tout. Il faut faire attention, on ne parle pas trop. Comme il disait Berouria, la femme de Rabbi Meir, elle marchait dans la rue, dans la route, et elle trouve Rabbi Yossi Aglili. Rabbi Yossi Aglili dit, quelle route on va vers Loud? Et Berouria dit, fou que tu es ce Galiléen, il est fou. Pourquoi tu me dis comment on y va à Loud? On dit où Loud. On raccourcit la phrase. Je suis une femme. Tu n'as pas parlé des longues phrases avec moi. T'es un fou. Alors aujourd'hui, 95% des gens sont FOU. Oui, on parle beaucoup. C'est pas bon. Toute cette proximité, le fait qu'on est proche un de l'autre, les hommes et les femmes, tout ça, ça c'est très malsain. On est obligé de travailler, on est obligé. Ce qu'on est obligé, on est obligé, on ne peut pas interdire, on est obligé de parler à ça. Mais il faut faire attention. Ce qu'on n'a pas besoin, altarbe, il n'a pas dit, on va le droit de dire un mot, on va le droit de dire ça, altarbe. Ne sois pas marbe, marbe. C'est quand ça dépasse ce qu'on a besoin. Ou que Rachachachom, ça devient familier. Et quand Amrou Chachamim dit, si Chachamim, ils ont dit, Polzman Shadam Marbe Sichem Haisha, Porem Ra'a Le Atzmo. Tant qu'un homme, il est marbe la papoterie avec une femme, papotage, Porem Ra'a Le Atzmo. Il se provoque lui-même du mal. Ça donne un balagan. Ou Botel Medivre Torah, et il n'étudie pas. À la fin, ça risque de finir très mal. Ça, il faut faire très attention aujourd'hui. Mais ici, on parle de Ishto ou de Eshet Chavero. Mais aujourd'hui, ce n'est pas sa femme ou la femme de l'autre. C'est les femmes des autres. Ce n'est pas avec une femme. Aujourd'hui, on peut parler avec beaucoup de femmes, parler ou les entendre de parler à la télévision, à l'Internet. On parle des autres femmes ou pire que parler. Toutes sortes de choses, tout ce bins, tout ça, ça c'est la manière comment les tzaras, il veut affaiblir les gens. Donc ça c'est, on dirait que ça c'était aussi à cette époque des Grecs. Et comme ça a commencé aussi le Yetzarara. Donc les Chachamim, ils ont répété inlassablement, faites attention de ce Yetzarara. Bon, mais Ezrat Hashem, demain va continuer à 5 heures. Ezrat Hashem. Surotovot, Koltouf.